Du jeudi 27 février 2003 au mercredi 5 mars 2003, Yaoundé, Ebolowa, Kribi, Douala, zone de turbulence. Le premier tronçon de notre parcours entre Yaoundé et Ebolowa se fait sans encombre. Martin et Eric apprécient leur nouveau mode de transport. Ils nous font part de leur joie de retrouver les sensations de vitesse que leur procure le tandem et qu'ils avaient pu connaître quand ils étaient voyants sur d'autres engins à roues. L'un et l'autre sont très sportifs. Ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble. Martin répète à qui veut l'entendre « Je me sens jeune ». Il a mis son brassard de capitaine de Torball, aux couleurs du Cameroun. Le long de la piste, les villageois nous saluent. « Mbolo !»« Bonjour en boulou !» dialecte parlé dans le sud du Cameroun. Eric leur répond « Bonjour maman !» surnom affectif donné aux vieilles dames. « Comment vas-tu ?» Et comme à l'accoutumée, les réactions les plus spontanées se font entendre. « Hi ! Un vélo pour deux ! Ils ne savent plus quoi inventer, ces blancs !» Ou encore « Vous avez soudé deux vélos ?» L'adjoint au maire et chef traditionnel de Mengong nous explique. Lorsque vous arrivez dans une communauté boulou et que vous voulez sympathiser avec les gens pour les saluer, commencez par les appeler. Dites « Mojan », ce qui veut dire « mon frère ». Puis continuez par « Mbolo, Mvoy »,« bonjour, ça va ?» Et eux vont vous répondre « Mvoy », ce qui veut dire « ça va bien ». Là, vous pouvez engager une conversation. C'est comme ça. Si vous voyez un jeune homme et que vous lui dites « bonjour monsieur », il va se méfier. Faire deux pas en arrière, vous observez, vous calculez. Alors que si vous lui dites « bonjour mon frère », il va vous rendre votre salut sans s'inquiéter. Il va vous écouter et répondre « je suis là ». Lors des pauses, les villageois nous offrent des bananes ou des noix de coco. Au cours d'une de ces pauses, un homme demande à une femme venue chercher ses fruits. « Lequel des quatre voyageurs veux-tu épouser ?» Eric s'exclame dans le même dialecte. « Tu préfères les blancs ou les noirs ?» Tous sont surpris de l'entendre parler la même langue qu'eux. Le Cameroun est un vaste pays, une véritable petite Afrique, au climat, ethnie et dialecte très différents d'une région à l'autre. Pas moins de 15 groupes ethniques majoritaires cohabitent. Les Fang, les Bamileke, les Peuls, les Bafia, les Boulous, les Pygmées, les Bétis, les Bassas, les Doualas. Plus de 250 dialectes sont parlés. Le Cameroun présente également une grande diversité de paysages. Au nord, ils sont de type sahélien, de vastes étendues semi-désertiques, tandis qu'au sud, la végétation est abondante. C'est la grande forêt équatoriale. Notre itinéraire nous fait passer par Ebolowa, point d'entrée de la grande forêt équatoriale. Ici, la route s'arrête et laisse la place à une piste sur laquelle circulent les grumiers, ces camions qui transportent le bois exotique, Moabi, Talis, Ebéry, Ébène, Tech, Evea, vers le port de Douala pour l'export. Le passage de ces lourds convois a creusé la piste. Les premières averses de la saison des pluies n'ont rien arrangé. La terre est grasse et collante. Et ce n'est pas sans appréhension que nous quittons le macadam. Dès les premiers tours de roue, nous comprenons que les jours qui vont suivre ne seront pas une partie de plaisir. La carte nous indique que pour rejoindre Kribi et l'axe lourd qui longe la côte jusqu'à Douala, il n'y a pas d'autre possibilité que cette piste défoncée de 230 km. Une pluie fine continue à tomber. À peine 3 km après avoir quitté la route, Noisette plonge dans un trou, rebondit et finit sa course dans une deuxième ornière, projetant ses deux passagers au sol. Plus de peur que de mal. La chute a été amortie par la terre meuble ainsi que par la jante avant, mais cette dernière en subit les conséquences. Illustration de la quadrature du cercle. La roue fait un angle droit. Nous nous trouvons à la sortie d'un village. Un habitant nous aide à la redresser avec les moyens du bord. Une brèche dans un mur en ciment, puis un établi de fortune composé de 4 billots de bois. Nous finissons le dévoilage en jouant sur la tension des rayons. La jante a presque repris sa forme initiale, suffisamment en tout cas pour passer entre les fourches du tandem. Noisette peut rouler. Les blessures de Diego sont soignées. Eric s'est remis de sa frayeur. Nous repartons, toujours sous la pluie. Le sol est maintenant détrempé. la piste se transforme peu à peu en bourbier. La boue freine tellement notre progression qu'il nous faut parfois pousser le vélo sur le plat. Les garde-boues n'ont jamais aussi bien porté leur nom. La nuit tombe, la fatigue se fait sentir, les mots échangés se font plus rares. Chacun se réfugie dans ses pensées. Notre progression devient mécanique. Les gestes se répètent sans que nous y prêtions attention. Nous nous détachons de notre action, l'esprit s'évade. Paradoxalement, alors que dans ces conditions hostiles, chacun se recroqueville sur lui-même, ce sont ces moments-là qui nous rapprochent et contribuent à la construction de souvenirs communs. Ce sont ces moments-là qui seront évoqués plus tard au retour et nous rendront complices. Nous voilà donc à Nkolenyong. Il fait presque sombre lorsque nous arrivons. Georges, la première personne abordée, nous invite chez lui et organise tout. Sa femme nous prépare le repas, il nous chauffe de l'eau. Chacun à notre tour, nous allons dans la salle d'eau, pièce aveugle dont la seule particularité est d'avoir un revêtement en ciment et un trou au milieu du sol. Le contenu d'une bouilloire doit suffire à nous laver. 2 litres pour se mouiller, se décontracter et se rincer. Assis sur mes talons, la bouilloire tenue à bout de bras au-dessus de la tête, je me concentre sur ce filet d'eau chaude qui coule du poignet, le long du bras, autour de la nuque, suit la colonne vertébrale, la courbure du dos, la cuisse, puis le mollet jusqu'à atteindre la cheville. L'eau emporte avec elle la terre et la transpiration d'une journée de voyage, mais aussi la tension des muscles, l'inquiétude de ne pouvoir faire durer la jambe tordue ou de voir la nuit nous surprendre en pleine forêt. Le temps semble s'être arrêté, alors que tout est nouveau autour de moi. J'ai cette douce impression de retrouver mes marques, de me sentir en sûreté. Lavé et rincé, je regarde le contenu de la bouilloire. Elle est encore à moitié pleine. Sentiment d'abondance devant l'eau restante. Le lendemain, avant de repartir de Nkolenyong, nous prenons soin de démonter les garde-boues. Tant pis pour nos tenues. Nous privilégions notre avancée plutôt que notre propreté. Il nous reste encore près de 160 km de piste, et les grumiers qui continuent à passer ne la préservent pas. Diego et Eric font preuve d'une synchronisation hors pair pour piloter une noisette diminuée mécaniquement. La piste est technique et parsemée d'embûches. Il leur faut parler en continu pour anticiper les obstacles, rigoles, caillasses ou branches qui viennent obstruer leur chemin. Les mâchoires du frein avant ont été desserrées pour libérer la jante voilée. Le vélo ne peut s'arrêter qu'avec l'aide du frein à tambour dont Eric tient les commandes. Sans doute jaloux du soin apporté à sa consœur, Cyrano fait des siennes et profite d'un changement de vitesse un peu brusque pour simuler à son tour une faiblesse mécanique. La chaîne est vrillée à 2 endroits. Il faudra changer pas moins de 5 maillons avant de retrouver la souplesse habituelle de la transmission. Noisette n'en reste pas là. Un maillon se brise net, puis un câble de frein lâche. Le matériel est très sollicité. Jusque-là, nous avons de quoi faire face aux casses successives, et notre progression peut se poursuivre. Martin et Eric nous signalent tous les bruits anormaux. Les tandems ont leur langage. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent bavards. En milieu d'après-midi, nous arrivons à Akom 2. Nous nous écroulons dans le premier troquet venu et mangeons l'unique plat proposé, du singe. Le quota de casse ayant été atteint, nous rejoignons notre ville-étape sans difficulté particulière. Perdu au milieu de la grande forêt équatoriale, ce village isolé est situé au bord de la Kienke, fleuve se jetant dans l'océan au niveau de Kribi. Les cases sont construites en bambou et en terre. Les toits sont faits de palmes. Pour seul commerce, une boutique de la taille d'une cabine téléphonique qui vend les produits de première nécessité. Des bouillons cubes magie, du sucre, des cigarettes. Nous nous lavons dans la Kienke, en compagnie d'enfants qui n'hésitent pas à plonger les rochers et à se laisser emporter par le courant. Martin, qui ne s'est pas baigné depuis qu'il est aveugle, est aussi excité que les plus jeunes. Un villageois, Edmond, nous invite à partager son repas, du porc épic et des bâtons de manioc, accompagnés de grands verres d'odontol, liqueur de palme, produite artisanalement et interdite de vente en ville. Ce soir, nous ne sentons pas les moustiques avant de nous endormir. Mais au réveil, nous faisons connaissance avec les moutmout. Ces bestioles, invisibles à l'œil nu, attaquent à l'aube quand le soleil ne se fait pas encore sentir. Tout morceau de peau non protégé par des habits est pris pour cible sans discrimination. La piqûre de ces insectes entraîne des démangeaisons persistantes. Fort heureusement, les moutmout disparaissent dès que pointent les premiers rayons du soleil. Nous sortons de la zone des turbulences, comme l'a surnommé Martin, comparons les tandems à des avions secoués dans le mauvais temps, et nous autres à des pilotes et copilotes faisant équipe pour amener l'appareil à bon port, la ville de Kribi. Quelques kilomètres avant d'arriver dans la ville tant attendue, alors que nous sommes encore en pleine forêt au milieu des plantations d'EVA, arbres dont on récolte la sève pour faire du latex, Martin me fait remarquer que l'on sent la mer. En y prêtant attention, je me rends compte que l'air est chargé d'une humidité iodée. Quelques tours de roue plus tard, nous sommes en effet au bord de l'eau, heureux d'avoir rejoint une route goudronnée et d'être sortis indemnes de la zone de turbulence.